la contribution que j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui nous amène à aller interroger au constat du conflit qui a opposé les acteurs économiques des Pyrénées et au constat de la dureté du conflit. Essayer de comprendre donc pourquoi l'ours brun a catalysé tous les mécontentements et fédéré, ce qui peut paraître paradoxal parfois aussi, tous les soutiens, et de montrer qu'il n'y a pas eu de résolution de la crise au sens que, dans l'ours et la focale, pardon, et au sens qui est donné par René Girard. Donc, tout d'abord, rapidement, quelques définitions. Celle du plantigrade, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, donc un plantigrade, c'est un animal, ours ou blaireau, qui marche en appuyant sur le sol, la totalité, toute la plante des pieds, et non pas seulement les doigts. Cette image a été reprise pour une campagne concernant un fromage fermier. C'est une campagne qui est initiée par le FIEP dans les années 1975. Le FIEP, c'est le Fonds d'intervention éco-pastorale, dont l'un des buts, c'est justement d'aider les bergers à travailler, enfin tout au moins les bergers qui revendiquent la cohabitation avec le plantigrade. Pour ce qui est du bouc émissaire et de la victime émissaire, puisque ces termes sont dans le titre de ma communication, c'est à René Girard, qui est philosophe et anthropologue du désir, que nous devons cette théorie. Et pour revenir au sujet qui nous occupe, plusieurs de la société, composantes de la société en Béarn ont focalisé sur l'ours brun pyrénéen, et leur affrontement, leur désaccord l'ont rendu in fine responsable des difficultés économiques que traverse la communauté pastorale en Béarn. L'inadaptation politique récurrente à résoudre ces difficultés a alors généré un transfert de la crise sur l'animal. Alors, qu'est-ce qui nous autorise à affirmer que l'ours est une victime émissaire si l'on se base sur les études de René Girard, donc un bouc émissaire, possède un signe physique notable. Une victime émissaire, elle est d'abord parce qu'elle possède donc un signe physique notable, pardon. L'ours est doté d'un aspect anthropomorphe, il est bâti comme l'homme, il a la même silhouette et il possède des capacités motrices qui sont identiques aux nôtres également. Il peut s'asseoir, se coucher sur le côté, grimper, sauter et même danser. Cependant, l'aspect anthropomorphe de l'ours ne suffit pas à le désigner comme victime émissaire. Si toujours en suivant la théorie de René Girard, il possède aussi une infirmité par addition ou par soustraction que moi je vais observer au travers du légendaire et du scientifique, du symbolisme, pardon. Donc, pour reprendre donc la théorie de René Girard, l'ours est celui dont la totalité est appauvrie. Alors que l'anthropisation des Pyrénées occidentales et d'une activité pastorale sont attestées dans les Pyrénées depuis le néolithique, et en Béarn, depuis le néolithique final, celle de l'ours antérieur témoigne du partage contraint, certes, du territoire entre l'homme et l'animal. S'il a appartenu par nature à la communauté montagnarde, cette appartenance lui est aujourd'hui âprement contestée. La mythologie pyrénéenne illustre une deuxième caractéristique qui conditionne le choix de la victime émissaire et qui présente également une infirmité par addition ou par soustraction. Combien de chroniques, bestiaires, encyclopédies du Moyen-Âge prêtent à l'ours, et en particulier aux spécimens de sexe féminin, une sexualité débridée que la zoologie démentira. D'un autre côté, je voudrais aussi signaler que le conte populaire place l'ours à la frontière entre le civilisé et le sauvage, délimite les territoires humains et animaux. Ici, on parle de transgression des territoires. L'incipit des contes d'ours en Béarn, ailleurs certainement, mentionne une transgression des territoires, qu'elle soit du fait des hommes comme de l'animal. Alors, ainsi, Yann des Lours, c'est un conte dont on retrouve des versions dans tous les territoires montagneux, donc en France, mais aussi en Europe, en Russie et en Asie. Yann des Lours, c'est le fruit d'une union monstrueuse, c'est une créature inadaptée au monde humain. L'ours transgresse sur le plan symbolique les limites de ce que l'humain est prêt à lui concéder. Et sur le plan du réel, le statut de la prédation, toujours contesté, lui est ici refusé. Alors là, on a deux illustrations. Celle-ci, celle de gauche, est valide parce qu'elle elle situe vraiment le côté monstrueux de Jean. Celle-ci se rapproche plus, celle de droite, du teddy bear américain, mais c'est une figure douce et sympathique. Yandé l'ours, dans le conte, c'est un être monstrueux qui, bien sûr, possède toutes les qualités humaines requises, mais dont la forme est monstrueuse. Ainsi se crée un antagonisme dont la nature diffère. Qu'est-ce qui amène donc à ce rapport de force entre les acteurs et usagers de la montagne, duquel la survie de l'ours dépend? Donc, j'ai pu observer un changement de paradigme, il y en a trois, le rapport à la nature, les relations homme-ours, et puis enfin une ouverture au monde extérieur qui est contrainte, en tout cas qui n'a pas été choisie. Le changement de paradigme est la conséquence d'évolutions multiples, sans pour autant que la crise catalysée par l'ursidée n'ait trouvé à ce jour une résolution satisfaisante. Pour ce qui est du rapport à la nature, au commencement de l'exploitation des estives, il y a 6 000-7 000 ans, était l'économie de subsistance qui fut la règle jusqu'à la mécanisation de l'agriculture dans les années 1950-1960. L'homme a accommodé, il accommode toujours pour certains, sa pratique économique d'élevage aux contraintes spatiales, le relief, la présence de pâturage et aux contraintes climatiques. Il créa et il pérennise toujours par là même des systèmes originaux et cohérents, intégrant l'ensemble des contraintes de l'espace exploité. Aujourd'hui, le rapport à la nature a totalement changé. L'homme tente de soumettre l'espace naturel montagnard à des pratiques d'élevage standardisées, répondant ainsi à l'injonction productiviste. Cela signifie-t-il que le rapport du berger à l'ours a fondamentalement changé? La lecture de témoignages que j'ai pu faire apporte autant d'appréciations contrastées sur la cohabitation avec le plantigrade qu'il y a d'individus. Et si le rapport de l'homme à la nature a changé, qu'en est-il de la relation des hommes aux ours? Une multiplicité de regards explicite les relations entre l'ours et l'homme. Il y a tout d'abord ce qui est donné à voir. L'homme ne maîtrisant plus grand-chose, tant les médias, parfois peu ou mal documentés, ont pris le relais, confisquant ou biaisant ainsi la parole des individus et fabriquant une image exogène issue de représentations urbaines. Le désir demeure cependant que l'autochtone aimerait exposer les problématiques d'un métier à redéfinir. C'est peut-être sur le plan symbolique dans les carnavals que la lutte entre l'homme et la bête est mise en scène, dans le champ social, dans un rapport de sens de la lutte entre l'homme et le sauvage, toujours perturbant. La photographie, c'est la chasse à l'ours qui précède le carnaval béarnais tous les ans. Aujourd'hui, cette relation non verbalisée mais toujours opérante s'exprime au moins donc sur les niveaux symboliques et politiques. C'est d'abord donc pour l'ours l'annonce d'un nouveau cycle calendaire, le retour du printemps, qui marque aussi le début des travaux de la Terre. La sortie de l'hibernation en février rythme le temps qui passe, car l'ours porte le renouveau sur son dos. Versus politique, en juillet 2016, après le vote consultatif du comité massif à Toulouse, des inscriptions ont été taguées le long des routes de quelques cols pyrénéens, sur lesquels on pouvait lire, excusez-moi, « Ours, ta gueule » ou « Ours, rentre chez toi » qui montre bien que là, on s'adressait à la bête. En octobre 2018, en Vallée d'Aspe, lors du bras de fer entre le gouvernement français et les associations d'éleveurs, on a pu lire à la sortie du village de Sarance « Non à la colonisation slovène et non à la réintroduction des ours, la guerre est déclarée ». Et pourtant, l'imagerie folklorique donnerait plutôt à penser que la domination de l'homme sur la bête soit bien et belle assurée. Et la scénarisation de cette domination de l'homme sur l'ours existe depuis le Moyen-Âge. Non, il y a une erreur. Voilà. Celui que l'on appelle Martin, ou Pédescaus. Pédescaus, c'est le va-nu-pied, c'est le brigand, celui qui va voler. Anthropisé jusque dans son nom et promené muselé au bout d'une chaîne de foire en foire par un cadet de famille. L'homme, montreur d'ours, et singulièrement son frère de misère, mis à la marge par la communauté paysanne par le système de primogéniture masculine, le cadet en Gascogne, intègre les marges de la société flanqué de son compagnon d'infortune. Le troisième point, c'est l'ouverture au monde extérieur contrainte pour les changements de paradigme. Les cadres familiaux, il faut aussi le signaler, familiaux et communautaires ont implosé dans les années 1960-1970. Ici, on a une photo d'une cabane en Vallée d'Aspe, au-dessus des Lesques. Ici, on appelle, enfin, en Vallée d'Aspe, on appelle ça une cabane. Ailleurs, on appelle ça un cuyala. C'est un terme qui est commun au Béarn et au Pays Basque. Le cuyala désigne à la fois la cabane d'habitation en estive et le parcours des bêtes qui lui est affecté. Soumis à une nouvelle contrainte économique, son modèle s'est déstructuré et est devenu inopérant face aux enjeux de la modernité. Si ce principe d'organisation qui est en connexion avec la maison au village, que l'on appelle la case, en bas, relève d'un savoir-faire technique, il serait cependant lacunaire dans nos maîtres l'organisation sociale et culturelle. Ainsi, bon nombre d'exploitations ont assigné leurs élevages aux nouvelles pratiques productivistes, délaissant un savoir-faire jugé obsolète. Confrontés à des exigences jusque-là inédites d'utilisation de techniques nouvelles, a créé de nouveaux besoins, dont le besoin d'argent, là où l'économie de subsistance ne le nécessitait pas. Aujourd'hui, ce modèle cohabite parfois avec un modèle ajustant les savoirs ancestraux aux abords des techniques actuelles. Des antagonismes quant aux pratiques pastorales ont surgi, et notamment le lien de l'homme à la nature en tant qu'ensemble de gains et de contraintes, et la relation de contact entre le berger et l'animal élevé. La quatrième section s'intitule « Visible et invisible » parce que paradoxalement, l'ours est devenu visible depuis qu'on ne le voit plus. La mort de Canel, qui est la dernière ours de patrimoine génétique pyrénéen, en novembre 2004, dans une battue de chasse, a ému au-delà du territoire pyrénéen, prenant une ampleur nationale et prouvant ainsi que le patrimoine animal devenait désormais le bien de tous. Les journaux locaux s'intéresseront d'ailleurs à l'événement en insistant sur le côté irréversible. Le lecteur est témoin à la fois étant attiré par la problématique de la disparition définitive du plantigrade de souche pyrénéenne. Le monde sauvage perdu laisse place alors à un courant scientifique qui prône l'interventionnisme. C'est dans ce cadre que s'inscrit la politique gouvernementale. Sous la pression écologique d'une part, et par le capital sympathie de l'animal, par l'enjeu politique qu'il représente également, la réintroduction se poursuivra envers et contre tout, exacerbant des oppositions anciennes et dont les deux fers de lance sont la contestation de prises de décision jugées verticales et par conséquent devenant pour partie et pour partie seulement un conflit allochtone-autochtone. Or, le repeuplement de la population d'ours s'avère complexe dans un espace naturel considérablement perturbé. L'écosystème oursin pâtit de l'action économique de l'homme. Que l'on songe aux aménagements entrepris depuis les années 60, donc il y a une station de ski nordique dans le parc national. L'aménagement des stations de ski d'alpin, il y en a trois sur le territoire béarnais, La Pierre, Gourette et Fabrège. L'image de l'ours avait été exploitée à ce moment-là, et ainsi que le percement du tunnel du Somport, la classe politique du Béarn se faisant alors relais de la doxa du désenclavement de la région à l'heure de l'Europe. En conclusion, la question de l'agriculture et de l'élevage de montagne n'a pas été traitée au regard des systèmes qu'elle appliquait en termes de rapport à la nature, d'adaptation aux contraintes physiques et climatiques, d'organisation économique et sociale et de valeur ajoutée culturelle. On méprise donc de systèmes éprouvés dont l'intérêt pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui était de médier la cohabitation avec l'ours des Pyrénées. Des positionnements économiques, idéologiques et culturels hégémoniques dont la doxa de l'agroalimentaire sont défendus, tant par les syndicats agricoles majoritaires que par une partie de la classe politique, les conduisant à une impasse. Ceux-ci, à l'échelle du territoire béarnais, ont ignoré, volontairement ou non, l'existence de systèmes particuliers et adaptés, tant à l'échelle de la micro-société paysanne comme à celle de l'individu. L'échec est réel, qui contraint alors les hommes et les femmes politiques aux abois, dans ce territoire, à se tourner vers leurs administrés, et en particulier les éleveurs concernés au plus près, pour légitimer en amont des actions qu'ils avaient pu engager. L'ours est aujourd'hui la focale des tensions entre ses détracteurs qui le rendent responsable de leurs difficultés économiques, il en est à ce titre responsable symboliquement, et la pression économique relayée bien souvent par ces mêmes détracteurs d'une part, auxquels se surajoutent les discours exogènes écologiques de préservation de l'animal et la réintroduction de l'ours fortement contestée. Le challenge est donc, et j'en terminerai avec ceci, pour assurer la présence de l'ours, de se positionner non pas sur une dichotomie pro et anti-ours, mais sur des choix tels que la garde des troupeaux, l'intégration de la prédation, le lien économique et écologique à la montagne, engageant la corporation des éleveurs de montagne dans une éthique de production et de consommation. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette...